IDFM Radio, le média valdoisien.
C'est Pascal Bertin maintenant qui nous rejoint sur IDFM Radio. On va parler de ses 40 ans, non pas... Je crois qu'il a un peu plus que 40 ans, j'espère que je vais pas le froisser, mais en tout cas des 40 ans du Festival Baroque de Pontoise. Merci d'être là, Pascal Bertin. Vous habitez Pontoise, vous habitez pas très loin en tout cas?
Alors vous êtes exactement au milieu, puisque j'habite à Saint-Denis et je travaille pour le Festival à Pontoise, donc en Guin, voilà.
Bon, ça va, c'est pas trop loin, soit vous prenez la ligne H, soit vous prenez votre voiture ou vos jambes.
Exactement.
En tout cas, vous êtes. Est-ce que vous êtes à l'origine? Vous êtes directeur artistique. Est-ce que vous étiez là
Alors,
au début de la création de ce festival?
Il y a 40 ans, peut-être pas il y a 40 ans, mais il y a à peu près il y a 35 ans, j'étais là, mais comme chanteur, puisque avant de passer du côté obscur de la force, j'étais sur scène et j'étais artiste lyrique, et donc je suis venu chanter plusieurs fois au festival. À ses débuts, mais non, je n'étais pas directeur artistique du festival il y a 40 ans. Je suis à ce poste depuis 2018.
Ça va, c'est récent finalement.
Ouais, assez récent. Ouais.
En tout cas, vous avez côtoyé ce festival à plusieurs reprises et puis vous avez monté les différentes étapes et vous vous êtes dit j'aimerais m'impliquer un petit peu plus dans cette aventure musicale. Ça fait partie un petit peu de votre ADN ou pas? Le baroque, la musique classique, vous avez toujours été dans cette synergie là avec les parents ou pas?
Alors les parents qui m'ont soutenu mais qui n'étaient pas du tout dans ce milieu là c'est des parents un peu mélomanes comme tout le monde, sans beaucoup de connaissances, mais avec un goût pour des choses un peu connues, les grandes ouvertures d'opéra, tout ce qui était très courant finalement dans les années 70, hein, de connaître les grandes œuvres de Mozart, quelques Beethoven, etc., sans être pour autant des spécialistes. Et le hasard a fait que je suis rentré dans un chœur d'enfants qui était très actif, qui était en tournée dans le monde entier 3 mois par an. Donc j'ai commencé dès l'âge de 10 ans à peu près à chanter, et ensuite j'ai jamais arrêté finalement. Donc on parle pas d'ADN parce qu'il y a pas de il y a pas vraiment de génétique dans cette histoire, mais en tout cas l'histoire est longue.
C'est quoi le baroque finalement exactement?
Alors c'est une très bonne question,
c'est la musique classique.
Alors c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais vous n'êtes pas loin de la vérité. Le baroque, communément, on va dire que c'est une période qui s'étend en gros de 1600, début du XVIIe siècle, jusqu'à 1750, qui est la mort de Jean-Sébastien Bach. Donc on a 150 ans de musique. Évidemment, vous imaginez bien qu'en 150 ans, il n'y a pas une seule esthétique. C'est-à-dire que 150 ans, ça voudrait dire que on considérerait que la musique d'aujourd'hui serait la même que celle de 1875. Vous voyez, ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'avait pas plus de sens à l'époque. Maintenant, si on parle vraiment de musique, le terme baroque appliqué à la musique, en fait, il n'a jamais été utilisé à l'époque. On l'a utilisé plutôt au XXe siècle, par analogie, en disant qu'il y a cette époque baroque, qu'on qualifie baroque pour d'autres arts et pour la musique. Du coup, on l'a appelé la musique baroque. Mais moi, quand je suis arrivé au festival, justement, j'ai expliqué que mon projet n'était pas d'en faire un festival uniquement spécialisé sur les musiques des XVIIe et XVIIIe siècles, mais d'utiliser le mot baroque dans son sens étymologique, c'est-à-dire, il veut dire bizarre, irrégulier, un peu étrange. Ça, à la base, c'est un terme de joaillerie qui définit une perle dans une huître, une perle qui n'est pas parfaite. C'est un mot portugais, baroco, et qui voilà l'origine. Et donc moi j'ai simplement considéré que le festival baroque de Pontoise ne se limitait plus au répertoire des 17 et 18e siècles, bien que ça soit vraiment son cœur d'activité, mais était ouvert à des choses aussi un peu bizarres, ce qui fait que on fait aussi des musiques du monde, on fait aussi des partenariats, on travaille beaucoup en partenariat, donc avec aussi le jazz au fil de l'Oise, de la danse contemporaine, avec la scène nationale. Voilà, on est très ouvert dans notre acception du mot baroque.
Et sur cette période, c'est là qu'on commence à découvrir des opéras italiens aussi?
Tout à fait. La naissance de l'opéra, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, On dit que c'est l'Orfeo de Monteverdi. Il y a quand même des expériences un peu avant, mais pas beaucoup avant. L'Orfeo de Monteverdi, c'est 1607. Donc c'est là où vraiment on considère que l'opéra, qui donc raconte une histoire avec des chanteurs qui chantent en solo sur des accompagnements d'orchestre ou de clavecin, pour faire simple, en alliant et la poésie et la musique, mais en solo, alors que précédemment c'était plutôt en polyphonie, c'est-à-dire plusieurs personnes qui chantent ensemble et pas forcément au même moment, ce qui peut parfois rendre le discours compliqué. C'est ce qu'on appelle la seconda pratica, la seconde pratique chez Monteverdi. C'est Monteverdi qui invente ça et qui change le cours de l'histoire de la musique.
La musique classique, le baroque, l'opéra, on pourrait nous s'y mélanger, puisque je ne suis pas un grand spécialiste. Merci. Ça se rejoint, mais c'est des courants qui sont aussi différents.
Bah en fait, sur ces trois termes-là, vous parlez à chaque fois de la même chose, finalement. Baroque, c'est simplement une spécification de l'époque. La musique classique, bah, on va le définir simplement en disant que c'est tout ce qui n'est pas, tout ce, on va dire un peu bêtement, mais de dire que c'est la musique écrite, alors en opposition à des musiques de tradition orale, des musiques plus traditionnelles ou des musiques actuelles qui sont finalement peu écrites, qui sont plutôt sous forme de code dans des logiciels de composition. En fait, aujourd'hui, il y a plus personne qui écrit des partitions pour écrire de la musique. Donc voilà. Et puis l'opéra, c'est un des genres de la musique classique. Donc tout ça, il y a pas de la même manière qu'il n'y a pas de frontière non plus d'époque. Il y a toujours eu des compositeurs qui sont très en avance, d'autres qui regardent vers le passé. Il n'y a pas, en 1750, une police de l'esthétique qui dit « Bon, ben maintenant, le classique, c'est fini, on va passer au style galant. » Enfin, voilà, ça n'existe pas. Donc, les choses se chevauchent et évoluent naturellement.
Pascal Bertin est avec vous aujourd'hui sur IDFM Radio, directeur artistique du Festival Baroque de Pontoise, avec une thématique chaque année. Cette année, c'est les philanthropes.
Oui.
Quelques mots, justement, sur cette thématique qui va accompagner le public jusqu'en juin. Quand on parle d'un festival, souvent, c'est sur un week-end, hein, c'est 2-3 jours. Mais vous, c'est sur la saison entière, hein, 2025-2026.
Eh oui. Hein. Oui, parce qu'on est gourmand.
Et vous avez bien raison.
En fait, historiquement, le festival, avant mon arrivée, était un festival qui était à cheval sur septembre-octobre, sur en gros 4 semaines. Quand j'ai été choisi pour ce poste, moi, il m'a semblé que j'allais m'ennuyer à travailler toute une année juste pour un mois de programmation. Donc, j'ai proposé à ce que on étende la programmation sur toute l'année. On a gardé une période donc un peu plus concentrée de programmation dans ces dates historiques. Donc, cette année, ça commencera le 27 septembre pour finir le 18 octobre. Mais ensuite, donc dans cette période-là, il y a 3 événements par semaine, en général sur le week-end. Et puis ensuite, il y a 1 ou 2 événements par mois jusqu'à la fin juin. Ça a un intérêt aussi, puisqu'on est très impliqué sur la médiation, l'éducation artistique et culturelle avec les écoles, avec les associations. Et quand vous faites un festival en tout début d'année scolaire, comme c'était auparavant, c'est très difficile de faire un travail sérieux avec les enfants des écoles, puisque pour nous, il nous semble que c'est pas suffisant simplement d'inviter des enfants à voir un spectacle et puis merci, c'est gentil d'être venu, au revoir. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de les contacter en amont, de faire un travail. Les artistes viennent dans les classes, font ce qu'on appelle de la médiation aujourd'hui. Et ensuite, il y a des projets qui peuvent être au long cours sur toute l'année. Et ça, si on n'a pas une programmation qui est sur toute l'année, bah c'est quelque chose, c'est un sujet sur lequel on échoue un peu.
C'est vrai que vous avez parlé du mois d'octobre parce qu'il y a des séances aussi, il y a du cinéma,
oui,
avec notamment les musiciens. On va en reparler d'ici quelques minutes. Mais pardon, je vous ai posé une double question. Le thème cette année, oui. Donc c'est les philanthropes. Pourquoi ?
Alors, le principe du choix des thèmes officiels, c'est toujours un peu le même. C'est-à-dire, je regarde quels sont les anniversaires de compositeurs ou des anniversaires d'œuvres, par exemple. Et puis, je cherche ce qui peut les relier, et surtout, ce qui peut les relier à notre époque, pour ne pas rester dans une dimension muséale où on va s'intéresser juste à des questions historiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi des musiques écrites il y a 200 ou 300 ans ou 400 ans peuvent encore aujourd'hui intéresser des gens et parler à des gens et soulever des problématiques qui peuvent être des problématiques sociétales qui sont complètement d'actualité, en fait. Là, cette année, les anniversaires majeurs, c'était 400 ans, 400e anniversaire de la naissance de Christine de Suède. Alors, Christine de Suède, c'était une reine de Suède, comme vous l'aurez compris, qui est née en 1625, qui a été couronnée à l'âge de 6 ans, et puis qui, toute sa vie, s'est passionnée, même dans sa prime jeunesse, en fait, s'est passionnée pour les arts. Elle avait 12 ans, elle a fait venir Descartes à Stockholm pour étudier la philosophie et les mathématiques. Elle a fait venir les plus grands musiciens français pour apprendre la musique et la danse, tout le style français. Et puis finalement, à un moment, la politique l'a un peu ennuyée. Je vous la fais courte. Elle a aussi elle s'est aussi convertie au catholicisme. Elle a été invitée à Rome. Et en fait, elle est devenue une des plus grandes mécènes de son temps. Et puis, il y avait un autre anniversaire qui était les 50 ans de la mort de Geneviève de Chambure, Pelletier de Chambure, donc qu'on appelle la comtesse de Chambure, qui a été une immense mécène aussi au XXe siècle. Donc beaucoup plus près de nous, elle est morte en 1975. Et cette collusion, en fait, m'a donné envie de parler des philanthropes, parce que notre problématique à nous d'aujourd'hui, à tous les ensembles et à tous les diffuseurs de musique, c'est où est-ce qu'on va chercher de l'argent, alors que les engagements de l'argent public, enfin des fonds publics, réduisent de plus en plus. Vous savez que la situation est de plus en plus difficile pour tout le domaine culturel, et que dans des tas de régions, c'est pas encore trop le cas chez nous. On subit les baisses à la marge pour l'instant, mais on sent bien le danger. Donc, moi, j'ai voulu faire une saison où on allait parler des philanthropes au sens large, c'est-à-dire des personnalités qui ont pu, des personnalités ou bien des abbayes, des cours, des industriels, des entreprises, qui ont pu favoriser à un moment l'éclosion d'artistes qui sont devenus très importants.
Et vous avez trouvé ça aussi sur notre département, le Val d'Oise?
Très bonne question. Il y a de toute manière un bassin d'entreprises qui sont déjà impliquées dans divers cercles de mécènes, les entreprises de spectacle en France. Il y a un cercle de mécènes à la scène nationale de Cergy-Pontoise, il y a un cercle de mécènes à Auvers-sur-Oise. Nous-mêmes, on est en train de créer ce cercle de mécènes. Donc, oui, il y a des très grandes entreprises sur le Val d'Oise, donc qu'on essaye tous, en fait, d'intéresser. Aujourd'hui, les grandes entreprises, le mécénat est différent d'autrefois, c'est-à-dire qu'ils vont s'intéresser, et tant mieux, pour des questions de RSE, c'est-à-dire responsabilité sociale et environnementale, si je ne dis pas de bêtises, de savoir, par exemple, ils ne vont pas donner des chèques en blanc sur des projets pharaoniques musicaux qu'on va pouvoir faire, ce qui est très bien. Par contre, ils vont avoir une attention particulière sur l'implication qu'on peut avoir sur des populations, sur un travail de territoire, ce que nous, on fait beaucoup. On travaille beaucoup avec les maisons de quartier, les quartiers politiques de la ville, mais aussi la ruralité, dans le Vexin, etc. Ça, ce sont des choses qui sont importantes pour les entreprises. Donc, je ne vais pas vous citer des entreprises en particulier. Nous avons nos partenaires. On est toujours en recherche d'autres partenaires. Donc, chers auditeurs de IDFM, il n'y a pas de petits dons, et il n'y a pas que les entreprises, les particuliers. Et vous savez aussi qu'il y a un avantage fiscal conséquent, 60% pour les entreprises de votre don et 66% pour les particuliers. Donc finalement, ça ne coûte pas très cher d'aider au développement culturel et au développement de territoires et de populations.
Merci d'être avec nous, Pascal Bertin, sur IDFM Radio, directeur artistique notamment du Festival Baroque de Pontoise. On va parler un petit peu plus de la programmation dans un instant. À tout de suite.
On a quitté la Terre, on a décroché la Lune, on a fleuri le béton. effacer les frontières. On en a stoppé des guerres. On a jeté les chaînes. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent.
IDFM Radio, nous sommes toujours ce matin avec Pascal Bertin, directeur artistique du Festival Baroque de Pontoise. On a beaucoup parlé de la commune de Pontoise, mais en fait ce festival est itinérant. Hein. Il passe très bien à Niers-sur-Oise, je crois.
Ah non, pas là.
Non, pas à Niers-sur-Oise.
Ah si, pardon, bien sûr, bien si. Sûr. J'ai oublié que l'abbaye de Royaumont, était à Niers-sur-Oise, bien sûr.
On se mélange des fois. Et vous m'avez mis le doute d'un seul coup. Et effectivement, cette abbaye, elle est bien sur Agnières-sur-Oise. Donc, il y aura des représentations dans ce bel endroit majestueux. Donc, vous avez aussi un slogan qui s'appelle qui est « Le baroque n'est pas qu'une époque ». Le thème cette année pour cette saison 2025-2026, c'est les philanthropes. De toute façon, toutes les infos, les vidéos, des petites biographies aussi sur les artistes qui vont se présenter jusqu'en juin. Et même voir au-delà, parce qu'il y aura aussi du cinéma, avec notamment au mois d'octobre le film Les Musiciens. C'est sur le site festivalbaroque-pontoise.fr. Donc principalement dans des églises ou pas forcément aussi?
Pas forcément. Dans la première partie de saison, en général oui, puisque justement c'est le moment où on favorise les concerts en église, puisqu'ensuite dans la saison il fait trop froid.
Oui.
Donc ensuite on va plutôt chez nos partenaires. Dans les théâtres, je veux pas les oublier, mais je vais en oublier forcément quelques-uns, mais ça peut être l'Imprévu à Saint-Ouen-l'Aumône, le théâtre de Jouy à Jouy-le-Moutier, le Voreal Lantarès, voilà, il y a de nombreux le renouveau, je dirais, du théâtre de l'Usine qui s'appelle La Fabrique à Éragny maintenant, puisque le lieu a été repris par un collectif de compagnies, et on est très heureux de faire participer à faire revivre cet endroit formidable. Donc voilà, ce sont des endroits où on essaie plutôt d'aller pendant l'hiver.
Du coup, les 40 ans, vous appuyez sur des accents précis, particuliers ou pas ?
Oui, alors, comme on voulait vraiment faire un gala très, très spécial pour fêter ces 40 ans, il faut savoir aussi que ça correspond aux 300 ans d'une œuvre, peut-être l'œuvre la plus connue de musique baroque et peut-être même de musique classique, c'est les 4 saisons de Vivaldi.
Ah oui. C'est pour ça que vous allez ouvrir justement
exactement.
Le 27 septembre.
Exactement. En fait, les 4 saisons ont été imprimées, elles ont été écrites un peu avant, mais elles ont été imprimées en 1725. Donc on fête le 300e anniversaire. C'est aussi l'arrivée de notre nouvel ensemble en résidence, qui s'appelle le Caravansérail, qui est dirigé par le claveciniste Bertrand Cuillet. Donc, autour de ces 4 saisons, on a souhaité inviter des personnalités très célèbres et de la musique et d'autour de la musique qui sont passés dans leur carrière au festival. Pour certains qui sont passés alors qu'ils n'étaient pas du tout connus avant, une carrière colossale. Par exemple, Philippe Jarouski, qui est donc certainement un des chanteurs français le plus connu dans le monde, un contre-ténor célébrissime.
Oui, c'est fou, hein, il est très 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 populaire. En tout cas,
oui,
ce nom résonne. Hein. Moi
tout
qui n'écoute pas forcément de la musique classique, il est invité partout aujourd'hui. Hein.
Absolument, évidemment. Et c'est quelqu'un qui est venu au festival quand il avait 18 ans. Tous ces gens-là, ce qui est assez formidable, c'est de voir qu'ils ont le sens de la reconnaissance. C'est-à-dire que pour ce concert, on va avoir Emmanuel Haïm, immense chef d'orchestre, Philippe Jarouski, Ophélie Gaillard, extraordinaire violoncelliste, et puis aussi Laurent Naouri, chanteur, Ambroisine Bray.
On voit même Julie Depardieu. Hein.
Et voilà, Édouard Ferlet pour le jazz, et j'allais y venir, et aussi nos amis plus dans le milieu du Lambert Wilson, qui est également chanteur, qui va chanter ce soir-là.
Ça, je savais, mais Julie Depardieu, c'était ma grande surprise.
Alors, Julie ne chante pas, mais Julie est une mélomane absolument absolument extraordinaire. Parfois, je me demande si elle connaît pas plus de choses sur la musique que moi. Elle est incroyable. Et en fait, elle va venir dire les textes, parce que quand Vivaldi a écrit les quatre saisons, chaque saison est précédée d'un poème, d'un sonnet. Un sonnet qui finalement illustre, est la base de l'illustration de la musique. De ces sonnets, il parle des tempêtes, il parle des animaux, etc. Et toute la musique des quatre saisons va illustrer, en fait, ces idées-là. Et Julie, avant chaque mouvement des quatre saisons, nous dira les textes que Vivaldi avait choisi d'illustrer.
C'est très large, de toute façon, ce festival baroque de Pontoise, musique, théâtre, cinéma, danse.
Absolument. Et l'intérêt, en fait, de cette soirée, c'est justement aussi de montrer qu'on n'est pas... parce que pour chaque saison, les quatre saisons du Vivaldi, ça dure 40 minutes intégralement. C'est trop court pour un concert.
Tout à fait.
Donc moi, ce que j'ai proposé à chacun, j'aurais proposé de chanter ou de jouer des œuvres entre chaque mouvement, qui soient des œuvres peut-être un peu différentes, issues d'autres esthétiques, mais qui parlent des saisons. C'est-à-dire que on va avoir un extrait d'opéra du 19e, le célèbre duo des fleurs du Lacmé de Delibes pour le printemps. Pour l'été, on aura aussi une chanson napolitaine, je pense que ce sera Au Sole Mio. On aura pour l'automne Les Feuilles Mortes par Lambert Wilson, justement. Pour l'hiver, on aura des Noël ukrainiens, parce que juste après le début de la guerre, en fait, l'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, on a favorisé l'arrivée de musiciennes ukrainiennes, et ensuite on les a fait un peu tourner, et donc elles reviennent. Donc voilà, c'est pour montrer que cette soirée-là montrera que on n'est pas du tout concentré uniquement sur des répertoires 17e, 18e.
On le voit bien, on l'a dit, je crois, très rapidement tout à l'heure sur la première partie de notre rencontre. Vous êtes même en partenariat avec Jazz au fil de l'Oise,
ouais.
et il y aura Tiger le samedi 18 octobre. Là, c'est baroque, mais mélangé avec une guitare électrique.
Ça, c'est vraiment, vraiment génial. Et là, je demande à chacun de me faire confiance. C'est vraiment un projet que j'ai découvert. Vous savez, je l'ai découvert sur Facebook, en fait. J'ai vu passer ça, un air de cour, donc du 17e siècle, chanté par une chanteuse très élégante et accompagné uniquement à la basse électrique par un bassiste qui travaille avec des tas de chanteurs d'aujourd'hui, qui s'appelle François Puyalto et qui est chanteur aussi. Et je suis allé les voir en spectacle et c'est formidable. C'est vraiment ils prennent des extraits d'opéra baroque et ils les réinventent complètement, parce qu'à ce niveau, on parle même plus d'arrangement. Et c'est absolument formidable. Donc, je recommande à tout le monde cette soirée du 18 octobre au Dôme, pour voir que le baroque peut être, le baroque peut vraiment être arrangé d'une manière incroyablement moderne, en fait.
Bon, ça plaira peut-être un peu moins puriste, je ne sais pas.
Je suis pas sûr, parce que moi-même, je me considère comme un puriste. Et j'ai été totalement séduit par ça, parce qu'il y a un vrai respect de l'œuvre. Ce qui est dramatique, c'est quand on fait n'importe quoi avec une œuvre, alors que là, il y a vraiment, c'est vraiment ajouter quelque chose de remarquablement intelligent, quoi.
Parlez-nous d'autres spectacles que vous avez vus. Il y a des spectacles qui se créent exprès aussi pour le Festival Baroque de Pontoise?
Oui, alors ça dépend des années. Cette année, sur la première partie, il y aura le Gloria de Vivaldi qu'on va faire en partenariat avec la maîtrise Notre-Dame de Paris. Donc une œuvre en plus très grand public et formidable à entendre, et des musiciens du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Ça, c'est vraiment un concert qui sera le 17 octobre, si mes souvenirs sont bons, qui est vraiment créé de toutes pièces pour le festival. Après, il y a des
le 17 octobre, c'est Gloria.
Oui, c'est ce que je vous
ai dit. C'est ça, oui, tout à fait.
Le Gloria de Vivaldi.
Oui. Il y a du Bach et du Vivaldi.
Exactement.
Réunis.
Exactement. Exactement. Et des musiques qui ont été écrites quasiment la même année, en fait, par Bach et par Vivaldi.
Donc là, c'est à l'église Notre-Dame de Pontoise.
Ouais, absolument. Ouais. Ensuite, je pourrais conseiller aussi Maison à vendre, qui va être justement au théâtre, ex-théâtre de l'usine, La Fabrique à Erani. où on sort un peu aussi de notre zone habituelle, où c'est ce qu'on appelle un opéra comique, donc plutôt fin 19e. Enfin, celui-là, il est d'ailleurs début 19e, qui était une œuvre complètement oubliée, mais qui était connue dans toute l'Europe, en fait. C'est une œuvre très drôle, donc opéra comique, c'est pas seulement parce que c'est un opéra qui parle, mais c'est aussi un opéra qui est vraiment drôle, avec des tas de quiproquos. On est vraiment dans une esthétique de théâtre de boulevard, mais chanté. Donc ça, je vous recommande aussi chaudement. Après, il y a évidemment des choses à ne pas rater. Parce que je dirais que le casting parle de lui-même. Le voyage d'Anne de la Barre, qu'on programma le 3 octobre, c'est un récital de Lucile Richardot. Lucile Richardot, c'est la victoire de la musique, artiste lyrique de l'année 2025. Donc, c'est un concert à ne pas manquer. Mais, vous voyez, une question comme ça, pour moi, c'est toujours difficile parce que c'est un peu comme demander.
Parce qu'il y a combien de spectacles de propositions, en gros? Il y a une quarantaine.
Sur la première partie, non, pas une quarantaine, il doit y avoir.
Mais sur la totalité.
Bon, allez, une petite trentaine en tout.
Ah, c'est déjà bien.
Ouais. Et sur la première partie, on est à une petite quinzaine. Mais, voilà, c'est comme me demander de savoir quel est l'enfant que je préfère, pas dans ma famille.
C'est pas possible. Même si certains parents le savent, mais bon, bref.
Ah, on peut le savoir, mais on n'est pas obligé de le dire.
Qu'est-ce que je veux dire? Il y a un pass aussi. Est-ce que je peux accéder à 2-3 spectacles ou à l'intégralité du festival?
Alors, il y a des abonnements. Alors, je merci d'insister là-dessus. On est sans aucun doute le festival de ce niveau le moins cher de toute l'Île-de-France. Je crois que quelqu'un nous a fait remarquer que quelqu'un avait pris des billets pour l'intégralité de la saison et s'en était tiré pour moins de 300 euros.
Ah oui.
pour l'intégralité de la saison.
Donc, c'est comme si je m'inscrivais dans un club d'échecs pour la saison avec une association.
Ouais.
Non, mais c'est vrai.
Alors, c'est des sous, hein, 300 euros.
Oui, c'est des sous.
Mais pour 25 concerts
de partout
que vous allez voir les mêmes concerts au Théâtre des Champs-Élysées pour 150 euros. La place. Voilà. Nous, à partir de 3 concerts, vous avez une formule d'abonnement et avec des prix qui, du coup, naviguent entre 10 euros et 25 euros à peu près, quelque chose comme ça. C'est totalement gratuit pour les moins de 18 ans. C'est très important pour les familles. Venez avec vos enfants, ils ne payent pas. Et c'est 5 euros pour les moins de 26 ans. Voilà. On essaye toujours, évidemment, d'ouvrir. Que la question financière ne soit pas, en tout cas, un écueil pour les jeunes en particulier et les parents qui payent pour les jeunes.
Merci beaucoup à Pascal Bertin d'être passé aujourd'hui sur IDFM Radio. Directeur artistique donc du Festival Baroque de Pontoise, vous êtes aussi prof de chant, vous travaillez dans un conservatoire à Paris, vous faites plein de choses aussi.
Oui. Et j'aime le vélo, mais ça...
ce sera le sujet d'une autre émission. Merci beaucoup. Festival Baroque-Pontoise.fr. Je dis le tiret, mais en fait, dans un moteur de recherche maintenant,
exactement.
On tape Festival Baroque-Pontoise ou même Festival Baroque et on tombe directement sur vous.
Absolument.
Vous êtes aussi assez présent aujourd'hui sur Instagram?
Tout à fait. On est sur tous les réseaux. On a une page Facebook, une page Instagram, LinkedIn. Je crois qu'il n'y a que... X où on n'est pas représenté.
TikTok non plus.
Non, mais ça pourrait venir.
Oui.
Mais
des petits extraits vidéo très rapides d'artistes qui se produisent.
Ah ouais, non, mais j'ai absolument rien contre l'idée. Il faut juste avoir le temps de s'en occuper.
Merci encore, Pascal, et à bientôt sur IDFM Radio.
Merci.